Richard, simplement une toute petite info et un témoignage. L'information, tout à l'heure vous parliez du premier master clermontois, le DESS-ICP, qui va renaître de ses cendres à partir d'octobre 2009 sous une autre version. C'est un master francophone des métiers de la formation. Et Michel Bois m'a proposé d'en dire deux mots cet après-midi, parce que c'est international, c'est 9 pays, et c'est sur une plateforme à distance en grande partie. Donc aussi autres enjeux, autres perspectives. Et je voulais simplement faire un témoignage par rapport à ce master qui est le tien, en tout cas sur Montpellier 3. Je suis assez étonné des effets générés par ce métissage, ce public très... Alors avec des personnes de formation initiale, de formation continue. J'ai pu intervenir plusieurs fois auprès de ce public-là. C'est assez passionnant de voir comment, finalement, on se décale par rapport au travail enseignant, une problématique de l'enseignement. Et on approche assez rapidement, du fait de ce public-là, des questions liées aux enjeux même des métiers de la formation. Et j'ai trouvé ça remarquable, en plus avec un public, alors peut-être trié de façon très précise, mais qui vraiment est exceptionnel, en tout cas sur Montpellier.
Oui, j'en profite pour dire une petite chose, c'est qu'on monte la version partiellement en formation ouverte à distance, c'est-à-dire 3 semaines de regroupement. Et on commencera par les regroupements, on commence pas directement par l'enseignement et la formation à distance. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une attente énorme du côté des formateurs. Parce que suivre 2 jours par semaine, nous on fait le mardi et le mercredi, pour pouvoir basculer, par exemple, les maîtres formateurs qui sont un de nos publics cibles, et sur le mercredi, sur 2 ans, ils ont tout l'enseignement. Deuxièmement, les stages, ils sont faits. Alors, je comprends pas pourquoi vous pouvez pas faire les 350 heures, mais peut-être que t'as pas eu le temps de le dire, Patrick, mais nous, on arrive à faire les 300 heures, parce qu'on a une modalité, c'est que le stage peut se faire sur le lieu de travail, à condition qu'il aborde une question de formation. Et ça c'est une condition sine qua non. Mais à condition qu'il aborde il y a des réservoirs de recherche sur la formation, là où vous travaillez, là où travaillent les personnes qui se lancent dans cette aventure.
Alors, simplement une remarque, c'est vrai que ce qui apparaît très nettement, c'est que les masters tels qu'ils sont présentés, en fait, dépendent aussi des lieux et des cultures. Et on voit bien que... C'est très très différent. Par exemple, bon, quand vous êtes adossé ou comme vous êtes vraiment au cœur donc du département de sciences de l'éducation. Nous, bien sûr, les rapprochements avec les universités, les intégrations font que nous sommes dans des universités souvent sans département de sciences de l'éducation, ce qui modifie beaucoup les choses. Mais en tout cas, nous, ce qui nous est apparu et ce que je n'ai pas retrouvé, mais c'est une question, nous, la nécessité d'une remise à niveau. Donc là, je suis davantage sur le master formation de formateurs d'enseignants. La nécessité et la demande de remise à niveau est très forte chez nous. Et c'est vrai que je ne l'ai pas entendu ailleurs, d'autant plus que ce sont, par rapport à ce qui nous a été dit tout à l'heure, ce sont des gens donc, qui s'inscrivent dans une progression, un parcours professionnel et qui ont vraiment envie hein, de transformer et d'évoluer, tout du moins dans leur carrière, parce que... cette évolution, elle existe. Et c'est vrai que, par exemple, les maîtres formateurs, nous espérons et nous nous attendons à ce que, petit à petit, la reconnaissance du CAFIPELF se fasse aussi, bien sûr, par la formation, par la masterisation. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est une question. Vous, cette nécessité de remise à niveau, qu'en faites-vous? L'avez-vous rencontré
Voilà, mais on la rencontre, mais on la rencontre à partir des situations. Je crois que le mot a été employé tout à l'heure. C'est à partir des situations qu'on la rencontre. Et notamment, donc, Dominique Bucheton a coordonné un livre qui s'appelle « L'agir des enseignants, des gestes professionnels ajustés ». Et effectivement, dans la recherche, on est toujours parti des situations. Et dans les situations, on a toujours trouvé des dimensions didactiques. Mais les dimensions didactiques, elles ne sont pas isolables. C'est ça le problème. Elles sont analysables, mais elles ne sont pas isolables. Un de mes thésards, là, donc Alain Jean, qui est formateur en technologie, qui a fait sa thèse sur la gestion des imprévus par les jeunes profs de techno, ben c'est incroyable. Il collectionne les imprévus, alors il les analyse très quantitativement. Un jeune prof de techno passe 85% de son temps à gérer des imprévus, dont une bonne partie est due à une méconnaissance de sa didactique, mais surtout à des méconnaissances de didactique d'autres disciplines. par exemple, une prof de techno qui est en panne parce qu'un élève lui pose la question « Dame, c'est quoi un pourcentage ?» Dans la fiche de consigne, il y avait à calculer un pourcentage. Et elle passe trois quarts d'heure à essayer d'improviser quelque chose et à la fin du fin, elle va chercher une explication dont on est certain qu'elle n'a même pas pu l'avoir à l'école et qu'elle a eu dans la cellule familiale. Donc on a ce point qu'on partage avec la didactique professionnelle, c'est qu'on part des situations professionnelles, alors enregistrées ou remémorées, on a des débats incroyables entre nous, parce qu'on n'est pas sur une seule méthodologie, on est quand même beaucoup sur des autoconfrontations simples croisées. Et même notre master est un objet de recherche, c'est-à-dire que on n'en a pas beaucoup parlé, mais comment on fabrique des épreuves de certification de master qui ont un caractère professionnel? Et donc depuis 3 ans, on enregistre les épreuves du master au deuxième semestre, parce que c'est une épreuve commune, où on leur donne une situation de formation qui a été enregistrée, et par groupe de 4 ou 5, ils doivent problématiser cette situation de formation et montrer tout ce qu'ils ont acquis. Et là, il y a toute la ringuette pour éviter l'atomisation des savoirs. Il y a toute la ringuette des membres du jury. Et ensuite, on fait une délibération. Et ça, eh bien, on le fait avec la didactique professionnelle. Et ensuite, on fait des autoconfrontations de chacun des étudiants qui a passé l'épreuve, des autoconfrontations des membres du jury, des autoconfrontations croisées. Et puis, on fait ce qu'on a inventé, c'est les doublements croisés. Donc on va expliquer à Dijon au mois de décembre, c'est-à-dire que on fait se rencontrer le jury et les étudiants. De toute façon, ils ont eu leur master et on essaie de comprendre ce qui se passe dans une épreuve là, parce que c'est un casse-tête de faire une épreuve universitaire et professionnelle à la fois. Voilà. Alors, j'ai peut-être un peu débordé sur votre question, mais c'est vraiment à partir des situations qu'on retrouve la didactique et non pas a priori le découpage disciplinaire. Mais c'est pas une critique. J'ai fait une thèse sur la didactique des langues anciennes, donc vous en faites pas. J'ai mon passeport. Voilà. Donc après l'analyse de l'activité, on va passer à l'action.
Oui, moi j'en aurais bien une. Oui. Bon. En outrepassant mon rôle de porte-micro, il y a quand même toute une série de questions là ce matin qui ont tourné, bon, encore là sur la dernière question qui est posée, didactique professionnelle, didactique disciplinaire, bon avec des S. Tout à l'heure, Lucria annonçait le colloque qu'on va organiser sur ce thème-là, donc en octobre, c'est en octobre, oui, ou en novembre 2010. L'autre question qui est aussi apparue à plusieurs reprises portait sur formation, recherche, et là vous avez réussi à avoir donc un double habilitation, recherche et formation. Alors, dans un schéma qui est purement intellectuel, là, est-ce que, et là vous allez répondre bien sûr par rapport au master sur lequel vous travaillez, que vous avez élaboré, est-ce que ces masters de formation de formateurs pourraient, pour partie, servir de laboratoire, je dirais, à une reproblématisation des questions de recherche? Ce qui aurait l'avantage de marier l'ensemble et de régler la question. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, ou est-ce que ça existe, ou est-ce que ça pourrait exister?
En tout cas, c'est la théorie qu'on développe au niveau de notre laboratoire. Alors, c'est pas la seule façon de revoir les choses et de les remettre en question. Mais toujours est-il que c'est la raison pour laquelle on dit qu'il y a certaines recherches qui sont d'ordre technologique, puisque le livre dont je parlais tout à l'heure a été fait à l'occasion d'une ERTE, d'une équipe de recherche en technologie de l'éducation. On a essayé de comprendre ce qui se passait dans les 20 premières minutes de cours, ce qui nous a donné bien des informations sur les gestes professionnels des enseignants, parce qu'il y a des invariants. Et alors effectivement, après, au niveau de la didactique, là, il y a des variations. Mais on réintroduit le sujet dans la didactique et on réintroduit le contexte aussi dans la didactique, y compris la didactique de la discipline, des SVT ou des maths, hein. Et la deuxième chose, alors ça c'est plutôt Anne Giraud qui dit les choses comme ça, mais c'est que il y a un certain nombre de recherches qui sont de toute façon, de toute évidence, praxéologiques. Et si on regarde l'histoire des sciences de l'éducation en France, la seule chose qu'il faut dire, c'est qu'on ne fait pas de recherche-action. Alors au Québec, on va dire qu'on fait des recherches collaboratives, ça a été employé ce matin. Moi, je dis que je fais des recherches sur l'action.
Oui, oui, effectivement, il y a des,
à partir de ce moment,
y a des mots qui sont devenus tabous.
Oui, parce qu'il y a des enjeux tactiques et stratégiques. Mais à partir de ce moment-là, on peut reconstruire beaucoup de savoir. Et dans le laboratoire, c'est Dominique Bucheton qui me le dit, on constate que plus des trois quarts des doctorants sont issus du master, y compris de l'époque où il était étiqueté uniquement professionnel. Ça se lit aussi dans les statistiques. Après, sur les moyennes d'âge, les formateurs, c'est une population qui a un âge plus élevé, c'est-à-dire que la moyenne d'âge est entre 35 et 39 ans pour les gens qui sont en formation continue. Donc ils ont accumulé beaucoup d'expérience et de capacité à se positionner sur une situation où ils apprennent des éléments d'un métier, d'une profession, comme vous voulez, qu'ils ne pratiquent pas habituellement. Donc il ressort de l'étonnement et il ressort des capacités à faire des mémoires de master, alors qu'ils sont de recherche, parce qu'ils s'inscrivent en professionnel ou recherche, et le service de la recherche est d'accord pour que ça soit un choix réversible jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au moment de la soutenance. Et là, sur sur la couverture, il y a marqué mémoire de recherche ou mémoire professionnelle. Et là, ils se forgent, comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure pour les M1, ils se forgent un projet de recherche, parce qu'ils ont souvent un sujet de recherche. Peut-être pas encore la question de recherche, mais on n'en est pas loin.